Et voilà.
Bien, bonjour à toutes et toutes. Donc, merci d'être présents aujourd'hui, soit dans l'amphi, soit à distance. Donc, l'objectif de cette présentation courte, mais à plusieurs voix, est de vous présenter globalement, en fait, le principe de la césure et de voir comment vous pouvez l'intégrer dans votre réflexion, dans le cadre donc de votre projet de formation dans l'enseignement supérieur. Donc, je m'appelle Hélène Bouraille-Malelon, je suis une des vice-présidentes de la CFVU et je suis notamment en charge d'une partie des formations et également de la vie étudiante. Donc, la césure, qu'est-ce que c'est ? La césure, en fait, c'est un dispositif qui vous permet d'interrompre temporairement votre formation pendant un cycle. Donc, vous avez le droit de le faire une fois dans un cycle. Et l'objectif, en fait, est de pouvoir vous accompagner. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose déjà ce premier temps d'information, à la fois dans votre réflexion et ensuite dans la réalisation. Là, vous pouvez vous poser des questions. La césure, quels sont mes droits ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Comment est-ce que la césure, elle peut enrichir mon parcours de formation ? Comment elle peut m'accompagner dans mon projet d'orientation ? Comment est-ce que je peux la valoriser ? Aussi lorsque je vais faire par exemple des dossiers de poursuite d'études. Donc c'est un peu tout ça qui peut être fait à la fois donc par quelques informations qui vont vous être données, mais aussi par tous les processus d'accompagnement qui sont mis en place au sein de l'établissement, parce que quand vous êtes en césure, vous êtes toujours étudiant de l'université de Caen Normandie, donc vous pouvez toujours être accompagné sur un certain nombre de points. Et puis aussi quand vous faites une demande de césure, cette demande, elle doit être validée par une commission. Donc, comment est-ce que cette commission va se réfléchir pour pouvoir statuer sur votre demande et si on dit parfois non, pourquoi est-ce qu'on dit parfois non ? Voilà. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Donc, je vais surtout n'hésitez pas tout au long de ces interventions à poser des questions. On est vraiment là pour vous accompagner dans votre réflexion. Et donc, je vais laisser la parole à Marjorie Rennes d'une part et puis ensuite à tous les collègues qui sont là pour vous présenter le dispositif.
Donc bonjour à toutes et tous. D'abord on va se présenter pour ce premier temps d'information, comme le disait Hélène, autour de la césure, puisque on a choisi ce jour, le 24 mars, puisque les candidatures, enfin en tout cas la campagne des candidatures est ouverte à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 30 mai. Donc moi je suis Marjorie Rennes, responsable du pôle accompagnement en réussite étudiante au sein de la DEV, donc la direction des études et de la vie étudiante à l'université de Caen Normandie. Et aujourd'hui donc je suis accompagnée par ma collègue.
Donc Bérénice Duquesne, je suis chargée d'accompagnement en réussite étudiante à la DEV aussi.
Et Serena Pitizi, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle à l'espace orientation insertion.
Donc, on est les principales, on va dire, interlocutrices, même si on est une plus grande équipe dans les faits. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter d'abord ce qu'est la césure, ce qu'on peut faire pendant une césure, quand est-ce qu'on peut la faire, quels droits vous allez pouvoir bénéficier durant cette césure et aussi vos devoirs. Alors à distance, puisque on a aussi ce temps d'information en visio, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Nous avons un autre collègue, Mathieu Davy, qui va les prendre. Donc, qu'est-ce qu'une césure ? Alors, une césure, c'est une période pendant laquelle vous pouvez interrompre vos études. C'est-à-dire que pendant tout au long de votre cursus, en licence, en master, en but, vous pouvez interrompre pendant une année universitaire vos études et faire un projet. Réaliser un projet qui soit professionnel ou personnel. Et donc, pendant cette durée-là, en césure, vous êtes toujours considéré comme étudiant. Vous avez toujours ce statut étudiant. Donc, ce que vous pouvez faire en césure, durant votre césure, soit vous pouvez partir en stage, et ma collègue à ma droite va vous expliquer un peu plus ce que vous pouvez faire dans le cadre d'un stage. Vous pouvez également travailler en France, dans une entreprise ou dans une association, mais également à l'étranger, par l'intermédiaire des services civiques ou du volontariat de solidarité internationale ou également du corps européen de solidarité. Vous pouvez également être bénévole au sein d'une association et aussi réaliser une autre formation dans un autre domaine duquel vous êtes en formation actuellement. Vous pouvez également profiter de cette période de césure-là pour développer votre entreprise, si c'est le cas. Et donc, il existe différentes vraiment formes de césure, enfin, en tout cas de possibilités. Et dans tous ces projets-là, nous, on est là pour vous accompagner déjà à la construction de ce projet de césure. Mais tout au long de cette année de césure, on est là aussi pour vous guider, vous accompagner, soit aussi vous aider à revenir à l'université après. Ou à aussi savoir valoriser ses compétences acquises durant ces différentes expériences. On peut cumuler cumuler différentes formes de césure, c'est-à-dire qu'on peut faire un stage, par exemple, de 4 mois dans une entreprise et puis faire une expérience de bénévolat dans une autre structure durant cette année-là. On part toujours sur le principe que, mais Bérénice, tu vas revenir dessus, que l'année de césure commence en septembre et jusqu'à la fin de l'année universitaire. On part vraiment sur une année complète. Pour toute, alors si vous n'avez pas de projet encore bien défini, mais que voilà, vous avez quelques idées, on va vous montrer après. On a un espace sur e-campus où on vous donne des possibilités, des idées, des ressources aussi, des liens vers lesquels, par exemple, vous pouvez aller vous connecter sur l'espace service civique. Il y a plein d'offres sur les VSI, les volontariats de solidarité internationale. Il y a également plein d'offres. Enfin, on va vous montrer cet espace-là où on vous donne également beaucoup de ressources si vous n'avez pas forcément d'idées bien précises. Et donc, en parlant de stage, je laisse la parole à ma collègue.
Donc, vous avez la possibilité de réaliser des stages pendant votre césure d'une durée limitée à 6 mois maximum dans une structure. Mais par contre, vous pouvez faire 2 fois 6 mois, comme vous pouvez faire 1 mois, peu importe. Dans tous les cas, c'est l'opportunité déjà de créer un réseau professionnel, de vous faire connaître aussi sur le marché de l'emploi pour une éventuelle insertion professionnelle suite à vos études. Le stage, c'est aussi le moyen de développer des compétences de terrain, donc de pouvoir mettre en application, par exemple, ce que vous avez appris à l'université sur le terrain. Et nous, d'ailleurs, à l'EOI, on vous accompagne aussi à la fin de votre césure sur la valorisation de vos compétences. Donc, on vous aide un petit peu à les mettre en avant sur un CV, sur une candidature, que ce soit pour une formation sélective ou pour une insertion professionnelle. Votre stage, il peut aussi vous aider à affiner votre projet. Si par exemple vous hésitez entre plusieurs métiers ou plusieurs secteurs professionnels, donc vous pouvez aller les tester directement sur le terrain. Donc ça, c'est une bonne opportunité pour vous. Oh, j'ai cassé le micro. et voilà, c'est un petit peu près tout. Donc c'est 6 mois maximum dans une même structure ou 924 heures. Donc, moi, j'ai le cas cette année d'un étudiant qui a fait 2 gros stages de 6 mois. Donc, c'est extrêmement professionnalisant. Et vraiment, il pourra le mettre en valeur au moment de son insertion professionnelle. Donc, voilà. Donc, c'est une des possibilités, en tout cas, pour la césure.
Donc, quand faire une césure ? Donc, vous pouvez faire une césure. Vous pouvez faire plusieurs césures, mais au cours d'un même cycle. Donc un cycle, c'est licence, master, doctorat. Donc vous pouvez faire qu'une césure à chaque fois. Tu peux passer. Hop, merci. Et du coup, la période de césure s'étend obligatoirement sur une année universitaire complète. Vous ne pouvez pas partir juste pour un semestre. Voilà. Donc la procédure. Vous allez déposer un dossier de candidature sur e-candidat. Cette année, on a deux campagnes de candidature. La première a lieu du 24 mars aujourd'hui jusqu'au 30 mai. Et donc, la première commission établissement a lieu le 26 mai et le 7 juillet. Et la deuxième campagne a lieu du 19 août au 14 septembre. Et du coup, la deuxième commission a lieu le 22 septembre 2025. Une fois que vous avez déposé votre dossier, que la commission a statué, etc., vous allez recevoir une notification comme quoi la commission a accepté ou non votre césure. Si votre césure est acceptée, vous n'avez plus qu'à signer la convention de césure entre vous et nous, donc l'établissement, et ensuite à procéder à votre inscription administrative. L'inscription administrative est obligatoire pour partir en césure. Donc vous devez obligatoirement être admis dans une formation pour pouvoir partir en césure. Comme on vous disait tout à l'heure, vous êtes toujours étudiant à l'université quand vous partez en césure. Donc votre dossier, dans votre dossier de candidature, vous avez donc un formulaire à compléter qui récapitule votre demande, votre certificat de scolarité de l'année à venir. Et toutes les pièces justificatives liées à votre projet de césure qui vont appuyer le sérieux de votre projet en fait de césure. Donc si par exemple vous partez en stage, vous allez mettre votre convention de stage dans votre dossier. Si vous allez travailler, il vous faut un contrat de travail. Si vous allez faire du volontariat, il vous faut une attestation. Voilà, toutes les pièces qui vont appuyer votre dossier et appuyer votre demande, il faut les ajouter à votre dossier. Voilà.
Alors, le sujet des bourses. Alors, lorsque vous intégrez votre césure, vous avez toujours le statut étudiant. Les bourses sur critères sociaux, donc qui sont attribuées par le CROUS, sont systématiquement suspendues dans le cadre de votre césure. Sauf cas particulier, si vous êtes issu d'une autre école, d'une autre formation habilitée à recevoir des boursiers, par exemple, cette année, on a eu une étudiante en école de sage-femme qui a pu bénéficier de ces bourses régionales. Ou alors, exceptionnellement, vous pouvez faire la demande auprès de la commission de césure pour maintenir ces bourses, si vous êtes boursier. Toutefois, une très grande vigilance, c'est que si ces bourses sont maintenues durant votre année de césure, ça rentre dans le décompte de vos droits de bourse. Il faut savoir que voilà, quand vous êtes boursier à l'université, par cycle, vous avez le droit à un certain nombre d'années. Alors, je crois qu'en licence, c'est 5 ans. Voilà, merci, Hélène. Et ma sœur, 3 ans. Et donc, si en licence, vous décidez de partir une année en césure et que vous demandez vos bourses et que celles-ci sont octroyées, vous consommez un droit de bourse. Donc, ça veut dire que quand vous allez revenir ensuite en licence, voilà, il ne va pas falloir trop chômer et voilà, ou alors il ne faudra pas compter sur l'ensemble des années de bourse. Donc, voilà, c'est vraiment une vigilance à avoir. Concernant les droits de l'étudiant, donc comme je vous disais, vous conservez votre statut étudiant, donc vous avez votre carte étudiant, donc avec tous les à côté en fait que vous pouvez avoir, les tarifs réduits, etc. Vous avez votre certificat de scolarité. Et donc, vous payez également, du coup, des frais de scolarité liés à votre statut étudiant. C'est un tarif à taux réduit. C'est 120 et quelques euros. Je ne sais plus le montant exact. Plus les droits à la CVEC. Et puis, alors comme je vous le disais au tout début, nous, on est là aussi pour vous accompagner tout au long de votre césure. Si vous avez là, par exemple, en ce moment, on a des étudiants voilà, qui s'inquiètent un peu sur leur retour à l'université. Donc, nous, on les guide sur les démarches, sur les procédures et les dates à bien respecter. C'est un exemple d'accompagnement.
Voilà, donc pour aller plus en détail au niveau de l'accompagnement, donc on peut vous accompagner au moment de la construction de votre dossier de candidature pour la césure. Si vous avez besoin d'aide, que vous posez des questions au niveau des justificatifs, etc., on peut voir ça ensemble et on peut travailler ensemble sur ce dossier-là. Pendant la césure, pareil, on est toujours là à disposition si vous avez un problème, ou même si tout se passe bien, on reste à votre écoute. Et pendant l'année, vous allez avoir un point d'étape. Donc même si vous ne nous sollicitez pas pendant l'année, nous, on va revenir vers vous à un moment donné dans l'année pour savoir si tout va bien. Et du coup, un accompagnement aussi à la fin de la césure. Donc pareil pour toutes les questions concernant la réintégration de l'université donc en septembre, mais aussi sur tout ce qui concerne le rapport de fin de césure. Pareil, on peut travailler dessus ensemble, on peut y réfléchir ensemble et on vous accompagne là-dessus aussi. On a ouvert du coup une page e-campus, la césure. Sur cette page-là, on met toutes les news concernant la césure. Il y a toutes les informations dont vous allez avoir besoin toute l'année. Les dates de... Voilà. Ah. toutes les informations sur comment préparer sa césure en amont, que faire pendant la césure, etc. Et sur après, en gros, tout ce qu'on est en train de vous dire là aujourd'hui, vous y avez accès sur l'espace e-campus. Il y a un forum si vous voulez poser des questions. Et du coup, nous, on vous donne les nouvelles, etc. Voilà.
J'ai juste... justement, sur cet espace e-campus, hein, que vous pouvez accéder librement à partir de e-campus. J'arrive plus à bouger ma souris. Voilà. Donc là, on a fait différentes tuiles. Je prépare ma césure, je candidate pour une césure. Et donc, je vous parlais tout à l'heure des différentes formes possibles que vous pouvez réaliser dans le cadre d'une césure. Et donc, ici, on vous donne vraiment plusieurs liens. Si vous voulez partir en stage, si vous souhaitez travailler pendant la césure, il y a le PVT, si vous ne connaissez pas. Devenir entrepreneur, vous pouvez être accompagné par une autre structure qui s'appelle Pépite. Le volontariat, voilà. Donc là, ici, vous allez pouvoir retrouver vraiment tout un tas de ressources. Je crois qu'on avait ici aussi. Voilà, il y a tout un tas de liens vers lesquels on vous renvoie qui sont encore d'actualité. Aussi, petite vigilance, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais si vous partez à l'étranger, on vous incite plutôt à vous rendre sur le site de la diplomatie pour voir si la destination à laquelle vers laquelle vous souhaitez vous rendre est vraiment en sécurité, puisque ça nous est arrivé par exemple l'année dernière où on avait une étudiante qui souhaitait partir en Égypte et qui avait un très beau projet, mais qui était en zone rouge. Et donc, nous, on lui a fortement déconseillé de partir, puisque ça a engagé aussi, quelque part, nous, notre responsabilité. Et donc, elle n'est pas partie en Égypte. Et voilà. Donc, j'attire vraiment votre... Et puis, alors, autre aspect aussi, l'aspect financier. Hein, si vous partez à l'étranger, assurez-vous également d'avoir les fonds nécessaires. Donc, effectivement, on a les bourses, mais qui ne sont pas automatiquement maintenues. Il existe aussi d'autres aides que vous pouvez retrouver ici, je crois, dans « Je prépare ma césure ». On a listé un ensemble d'aides financières qui peuvent être mobilisées. Voilà, les aides financières possibles, le passe-monde, voilà.
Hop, je te laisse là. Merci. Et du coup, vous pouvez prendre rendez-vous avec un chargé d'accompagnement aussi sur la page du campus. Il y a des créneaux qui sont disponibles et vous prenez rendez-vous. Sinon, vous nous contactez directement par mail. Du coup, je vous parlais du rapport de fin de césure. Donc, en fait, le rapport de fin de césure, il se compose de deux éléments, une carte mentale et une note vocale de 1 minute. La carte mentale, pendant la césure, on va vous envoyer un modèle. Là, le modèle qui s'affiche, c'est un retour d'un étudiant de cette année qui nous a fait du coup son rapport de fin de césure et du coup sa carte mentale. Donc en fait, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on attend de vous. De toute façon, on vous envoie un modèle avec, dans chaque bulle, on vous explique un peu, en gros, quelles compétences vous avez acquis pendant la césure, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, etc. Et du coup, on vous demande de développer un petit peu sur la carte mentale pour nous donner une idée globale de comment vous avez vécu l'année, ce que ça vous a apporté, etc. Au niveau de la note vocale, c'est à peu près le même exercice, mais à l'oral. Vous avez 1 minute pour nous expliquer comment s'est passée votre césure, ce que vous avez appris, ce que ça vous a apporté, etc. Donc pareil, comme je vous disais, sur cet exercice-là, on peut vous accompagner et on peut le faire ensemble et travailler ensemble là-dessus.
L'idée de cette carte mentale aussi, je complète juste, mais c'est essayer de, enfin, les années précédentes, en fait, on demandait, je remets le contexte, mais on demandait un rapport écrit de 5 à 10 pages aux étudiants. Et en fait, on s'était aperçu que, bon, ça peut être un peu fastidieux, vous avez la tête complètement ailleurs, enfin voilà, vous n'êtes pas à l'université à ce moment-là. Et donc, on se disait, voilà, on essayait de réfléchir à un format où vous, qui arrive à, où vous allez pouvoir identifier, projeter, illustrer les compétences en fait que vous avez acquises durant durant cette césure-là. Donc là, c'est un format plutôt visuel, assez synthétique. Et donc, voilà, c'est pour ça que cette année, on est parti sur ça. L'audio aussi, puisque voilà, ça développe aussi un peu, c'est savoir s'exprimer aussi oralement de manière synthétique. Et nous, je vous avouerai qu'on s'en sert aussi pour promouvoir la césure, parce qu'on est très convaincus de ce dispositif.
Oui, donc j'en profite pour compléter aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, si vous choisissez de faire des stages pendant votre césure, donc c'est l'EOI qui signe la convention de stage, on ne vous demande pas à la fin un rapport de stage. C'est pas comme si vous étiez en train de faire un stage dans votre formation. Là, on ne demande pas de rapport, le seul document à fournir, c'est donc la carte mentale et la note vocale d'une minute. Là, actuellement, on ne propose pas un atelier valoriser ses compétences à date fixe. On est plutôt vraiment sur le besoin et à la demande des étudiants qui reviennent de césure. S'il faut, voilà, par groupe, on peut venir vous accompagner. On peut aussi le faire individuellement, bien sûr. Donc, ce sera aussi pareil, on peut aussi accompagner sur la carte mentale pour vous aider un petit peu à identifier les compétences, donc savoir-être, savoir-faire et les connaissances, pour vous aider un petit peu à les valoriser. Alors, nous, on va peut-être plus faire le lien aussi avec justement le CV. Que ça soit encore une fois pour une candidature en formation sélective ou pour un emploi, un stage ou une alternance. Donc voilà, ce ne sera pas forcément le format atelier comme c'est indiqué ici, mais c'est en cours de construction et forcément voilà, plus on sera sollicité, plus on sera à même d'ouvrir des ateliers collectifs avec plusieurs personnes.
Donc, quand la césure se termine, vous réintégrez du coup la formation dans laquelle vous étiez inscrit en fait pendant votre césure. Par contre, si vous voulez vous réorienter, vous devez passer par une phase d'admission. Parce que pendant votre césure, vous étiez inscrit dans une formation qui n'est pas celle dans laquelle vous voulez vous réorienter. Du coup, il faut passer par la procédure classique de réorientation. Voilà.
Eh oui, et c'est ce que, enfin, je ne l'ai pas dit, mais vraiment information très importante. Vous conservez votre place pour l'année suivante, c'est-à-dire là, si cette année nos étudiants sont en master 1, l'année prochaine ils retournent en master 1. On conserve leur place en master 1. Et pareil en licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2. Voilà, on conserve la place dans laquelle vous avez été admis lorsque vous êtes lors de votre départ en césure.
J'en profite juste pour vous reparler de la réorientation. Donc l'EOI, on vous accompagne sur ces problématiques-là. Faites attention, quand on est en césure, vu qu'on n'est plus à l'université physiquement, on a tendance à oublier un petit peu les délais, les dates. Si vous faites un choix de réorientation, peut-être que ce sera une réorientation qui devra passer par Parcoursup ou e-candidat ou mon master. Et dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas louper les délais et ne pas attendre le dernier moment pour nous solliciter. Voilà.
Alors, voilà, on arrive au terme de notre présentation. Ici, vous avez l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter aussi. Nous sommes derrière cette adresse. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en amont ou pendant cette campagne de candidature, à nous contacter. Voilà, on va vous laisser maintenant poser des questions s'il y en a. Je ne sais pas sur le chat aussi s'il y en a. Mais pas de questions, tout est clair. Super. Oui, alors on va juste vous passer le micro pour que on vous entende bien.
Ouais, du coup, je veux partir à l'étranger, mais pour travailler. Et sauf que s'il me faut un contrat de travail, comment je l'obtiens? Par rapport à. Parce que je veux dire, j'ai pas de contact là-bas ni rien, du coup, c'est compliqué là-dessus. Du coup, c'était pour savoir.
En fait, vous avez pas de. piste vraiment, quoi. C'est juste pour le moment une idée de que vous voulez aller travailler à l'étranger, ou vous savez déjà à peu près où vous allez, vous voulez aller, ou...
Moi, j'aimerais bien aller en Australie.
Ok.
Mais le problème, c'est que je connais personne là-bas qui pourrait me, entre guillemets, me pistonner. Et du coup, pour obtenir un contrat de travail, comme vous disiez lors de la présentation, je ne sais pas du tout comment faire.
Alors effectivement, comme ça, on pourrait vous proposer de postuler sur un PVT, un permis vacances-travail. C'est un dispositif en fait qui est ouvert en Australie et en Nouvelle-Zélande, je crois. Ou plus partout en fait, oui, plus partout. Et je pense que si vous allez sur le site du PVT, il doit y avoir des offres d'emploi sur lesquelles vous pouvez candidater. Typiquement, ça c'est une situation à laquelle on peut vous accompagner pour construire cette démarche-là. Alors je voulais vous remontrer justement sur eCampus.
Trouver des personnes qui ont fait des PVT, en général c'est vraiment une petite communauté et ils vont vous donner un peu les bons plans, et puis surtout en Australie, voilà, ça se fait énormément, donc il y a moyen de trouver avant de partir, juste en contactant un petit peu les sites d'anciens PVTistes.
Ouais, ici vous avez sur eCampus, on vous a mis un petit laïus sur le permis vacances travail. Voilà, mais ça c'est quelque chose qu'on peut le faire ensemble. Enfin, on peut vous accompagner à cela.
J'en profite également pour ajouter que depuis cette année, on propose aussi à l'OI les stages à l'étranger. Donc on peut vous signer une convention de stage pour un stage à l'étranger. Par contre, vous n'êtes pas soumis aux mêmes règles, et notamment la gratification n'est pas obligatoire sur les stages à l'étranger. Donc, même si vous faites 6 mois en Angleterre, par exemple, vous n'aurez pas forcément de gratification sur votre stage.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, on va juste vous passer le micro.
Moi, j'avais une petite. Ah oui, okay. J'avais une petite question par rapport à si on fait une année de césure entre la L3 et la première année de master. Est-ce que c'est possible ? Et est-ce que ça compte c'est comme si on était en licence, c'est comme si on était en master.
Alors, une année de césure entre la L3 et le M1, c'est tout à fait possible. Du coup, si vous obtenez votre L3, vous allez passer en M1, enfin en tout cas, vous allez candidater à un Master 1. Et pour que vous puissiez candidater à une césure, il faut que vous soyez admise dans un M1. Donc en fait, c'est deux procédures un peu parallèles qu'il faudra faire un peu en même temps, voire même là, par exemple, en ce moment, on est enfin à la fin de la phase de mon master. Mais du coup, c'est deux procédures un petit peu parallèles qu'il faut vraiment penser en même temps. Donc il faut être admis dans un master 1 et en parallèle faire son dossier de candidature pour la césure. Attends, on va te passer un micro.
Si vous candidatez dans plusieurs universités, faites une demande de césure dans chacune de ces universités. Et sachez aussi que les responsables de formation ne sont pas informés du fait que vous demandez une césure. Donc ça ne peut pas être un élément positif ou négatif dans l'examen de votre candidature en master. C'est généralement...
Décorrélé.
Voilà, décorrélé.
Alors moi, c'est un peu particulier, c'est parce que je suis en médecine. Du coup, il n'y a pas vraiment de trucs de master, etc. Donc ça fonctionne pareil.
En fait, il faut que vous soyez admis dans le cycle suivant. Quand vous êtes entre deux cycles, vous devez être admise dans le cycle suivant pour pouvoir candidater. Donc c'est ça en fait. C'est pareil. En fait, vous pouvez faire une césure en L1. En fait, vous faites votre demande de césure en même temps que la demande Parcoursup. Et avant de commencer votre première année, vous allez faire la césure.
Ok, très bien, merci.
Je reprécise pareil, sur mon master, il y a une case, je souhaite faire une césure. Et elle fait un peu paniquer les étudiants, souvent. Cette case, on ne sait pas tellement à quoi elle sert, sûrement à des fins statistiques, mais en effet, les jurys de master ne savent pas si vous avez coché oui ou non à cette case. Voilà.
Moi, je suis en L2, STAPS, du coup. Est-ce que c'est obligatoire de valider sa L2 STAPS pour partir. Imaginons, dans le pire des cas, je redouble, mais je ne pense pas. Est-ce que je pourrais partir malgré ça ou pas ?
Oui, en fait, l'objectif, c'est quand même d'être inscrit à l'université. Enfin, la finalité, c'est d'être inscrit à l'université. Donc, que vous soyez redoublant ou en L2, enfin, peu importe, en fait, voilà. Y a pas de, c'est pas un frein.
En fait, quand vous êtes dans le cycle, votre réinscription est de droit. Il n'y a pas de limitation, sauf en master. Mais en premier cycle, il n'y a pas de limitation. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que sur le L2, avant le L2, avant le L3, la question ne se pose pas. C'est entre le L3 et le M1, vous changez de cycle. Et donc là, c'est soumis à une acceptation dans le cycle suivant. N'hésitez pas aussi, si votre projet c'est de partir à l'étranger, vous pouvez partir à l'étranger aussi dans le cadre de votre formation. Donc n'hésitez pas à vous informer aussi sur ces possibilités-là.
Juste une petite question supplémentaire. Tout à l'heure, on parlait de cas de demande de césure qui éventuellement pouvaient être refusés. Alors, est-ce qu'il y a des cas particuliers, si oui, lesquels qui amèneraient un refus de césure ?
Déjà, il faut aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire, de la candidature, c'est-à-dire de donner vraiment les pièces justificatives correspondantes. Après, je réfléchis sur les cas où on n'a pas accepté la césure. Très souvent, c'était parce que les dossiers étaient vraiment incomplets. Je ne sais pas si toi, tu as en mémoire...
Souvent, c'était des dossiers qui, par exemple, les étudiants expliquaient qu'ils voulaient faire des stages, qu'ils voulaient travailler, mais au final, il n'y avait pas de convention, ouais. il n'y avait rien de concret, en fait.
Le projet n'était pas abouti, quoi.
C'est ça, le projet n'était pas abouti. Du coup, là, on ne pouvait pas donner suite. Ouais.
Oui. Surtout que voilà, la césure, c'est vraiment quelque chose de à côté de vos études. On ne juge pas, en fait, en tout cas, on n'évalue pas votre projet de césure en fonction de votre formation. C'est vraiment une parenthèse consacrée à votre vie perso et pro. Et donc, du coup, on juge pas forcément sur ce que vous allez faire. On juge surtout sur la cohérence de votre projet, si vraiment vous avez un projet abouti. En fait, nous, on a surtout le souci, c'est que pour vous, c'est que ça ne soit pas une année juste de perdu où vous allez rester à rien faire. C'est vraiment, on insiste vraiment sur une année de césure, qu'elle soit vraiment bénéfique pour vous, qu'elle vous apporte vraiment compétences, expérience de vie, enfin tout un tas de choses, mais qu'elle soit pas dédiée à rester derrière télé ou sur le canapé, quoi. Voilà.
Et juste aussi, dans le cadre des formations, il y a un point particulier. Vous pouvez faire une césure pour aller faire une formation, mais cette formation doit être différente de votre formation initiale. C'est-à-dire que deux cas, un cas où ça a été accepté, quelqu'un qui allait faire une école militaire pendant un an, qui lui donnait ensuite le droit de pouvoir poursuivre, par exemple, son projet professionnel dans l'armée. Donc ça, c'était oui, parce que c'était différent de sa formation dans laquelle il était inscrit. Et un autre cas qui a été refusé, parce que réglementairement, ça ne rentrait pas dans le cadre de la césure, quelqu'un qui était en études de médecine et qui demandait à faire une césure pour aller faire une spécialisation médicale dans un autre pays. Et là, ça a été refusé parce qu'en fait, c'était le même cursus. Donc là, ça ne rentrait plus dans le cadre de la césure. Donc après, voilà, il y a aussi des cas réglementaires où le refus en fait est lié à l'arrêté qui définit la césure.
Est-ce que du coup, Mathieu, je vois que tu es à fond en train de répondre. Est-ce qu'il y a des questions que tu voudrais nous faire partager ou pas ?
Merci. Peut-être la question d'Alexia qui dit qu'elle compte également partir à l'étranger en tant qu'assistante de langue en septembre, sauf qu'elle aura les réponses de son affectation fin juin et son contrat également fin juin. Est-ce qu'il est préférable qu'elle attende la deuxième phase des candidatures pour candidater, ou est-ce que c'est préférable qu'elle candidate dès maintenant ?
Non, je pense qu'il vaut mieux candidater dès maintenant. De toute façon, voilà, comme on l'expliquait, on a une première campagne de candidature qui est assez longue cette année, mais on a prévu deux commissions, une au mois de mai et une début juillet. Et on sait que voilà, les pièces justificatives peuvent être longues à venir, surtout quand c'est des structures à l'étranger. Donc on est assez souple, on va dire. Et notre dernière deadline, c'est vraiment septembre, où là, si vous n'avez pas réuni toutes les pièces, votre césure ne sera pas acceptée. Et puis en plus, c'est un risque pour vous, puisque en septembre, on vous invitera à retourner à intégrer votre formation si votre projet de césure n'est pas abouti. Alors, peut-on faire une césure pour raison de santé? Donc, ça, c'est vraiment pas facile comme question. C'est quelque chose qu'on a déjà eu ce type de demande. Alors la césure, c'est pas tellement fait pour cela. On conçoit que ça peut être nécessaire. Toutefois, voilà, on essaye de trouver d'autres solutions avant d'engager le dispositif de césure, puisque voilà, vous serez absent une année complète, donc c'est quand même assez long. À l'université, on a des dispositifs qui proposent voilà, un accompagnement, soit par le service de santé étudiante, soit et ou avec le relais handicap santé. Donc, on peut proposer des aménagements d'études, des aménagements d'examen, même de la dispense d'assiduité. Enfin, voilà, tout dépend de la situation personnelle. Mais c'est vrai qu'on ne conseille pas trop de faire, en tout cas, une période de césure pour raison médicale. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que, voilà, on peut voir, nous, au sein de la commission. Donc oui, on est obligé d'être inscrit à l'université. Oui. Tout à fait. Si on voit par rapport aux frais coûteux d'inscription, effectivement, si le droit aux bourses est maintenu, du coup, on a une on a une exonération des frais d'inscription à l'université. Ça va de pair. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Oui, on va vous apporter le micro.
Alors, du coup, je me demandais, parce que vous avez dit que c'est sur les candidats qu'on faisait nos vœux.
Oui.
Et du coup, on peut faire des vœux dans différents établissements?
Alors non, nous, à l'Université de Caen, on utilise cet outil e-candidat pour faire la candidature pour la césure. Enfin, dans le cadre vraiment de la césure, hein, je parle. Donc, on utilise e-candidat pour que les étudiants déposent leur candidature. Après, je sais que dans d'autres établissements, c'est différent. Ça peut être des Lime Survey, des dossiers Word, enfin bref. Là, pour ça, vraiment, je vous conseille de vraiment vous renseigner directement sur le site de l'université en question. En général, enfin, quasiment toutes, en tout cas, décrivent bien leur procédure de candidature pour la césure. Ça, c'est vraiment propre à chaque université.
Et si, à la fin de l'année de césure, on revient et en fait, par exemple, si on devient entrepreneur et qu'on veut se consacrer qu'à ça, qu'on ne veut pas reprendre nos études, comment ça se passe ?
Eh bien, vous avez tout à fait le droit. Du coup, vous nous informez que vous souhaitez pas. Enfin, en tout cas, nous déjà, on fait un point d'étape avec vous, comme le disait ma collègue. On le fait en général en milieu d'année. Enfin, là, c'était début février cette année. Donc déjà, à partir de ce moment-là, vous savez déjà à peu près si vous souhaitez revenir ou pas. Il se peut qu'il y ait encore des doutes. En tout cas, nous, on vous informe bien qu'il faut nous prévenir. On informe nos collègues des inscriptions. Voilà, que vous n'allez pas forcément revenir à l'université.
Et tout à l'heure, vous avez, je crois que c'était Alexia, vous avez dit qu'il fallait mieux qu'elle postule à la première phase. Pourquoi il faut mieux postuler à la première phase plutôt que la deuxième?
En fait, une fois que votre dossier est passé en commission, on va l'étudier, même si toutes les pièces justificatives ne sont pas présentes. Mais en tout cas, on va étudier déjà votre projet. de césure. Alors, on va donner, enfin, la commission va donner un avis favorable ou défavorable, mais on peut donner un avis favorable sous condition des pièces justificatives. Donc, en fait, votre dossier va être en cours tant que vous n'avez pas donné votre pièce justificative. Donc, si vous pouvez tout à fait donner votre pièce justificative, je ne sais pas, le 10 juillet, et là, nous, on va venir valider, enfin, donner un avis favorable définitif à votre césure. C'est pour ça que plus tôt vous faites votre dossier de césure, plus tôt vous avez un projet bien ficelé avec des pièces justificatives, mieux c'est. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une période de candidature un peu plus lointaine, c'est-à-dire qui court de mi-août à mi-septembre à peu près. C'est pour des étudiants voilà, qui ne souhaitent pas forcément intégrer leur formation ou qui ont un projet un peu tardif de césure. En tout cas, si vous avez déjà votre projet, on vous conseille plutôt de vraiment candidater sur cette période-là. Et puis, si vous avez vos pièces justificatives, c'est le mieux. Mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir venir alimenter avec vos pièces justificatives. De toute façon, la césure, elle est conditionnée aussi à l'inscription administrative. Donc, la campagne d'inscription à l'université ouvre en juillet. Donc, on sait très bien que voilà, vous allez avoir un avis favorable définitif au courant juillet, quoi.
Ok, très bien, merci.
Est-ce que si on a un visa de travail, c'est vu comme un justificatif ou il faut absolument avoir une promesse d'emploi si on part à l'étranger ?
Non, un visa de travail, c'est déjà un bon premier justificatif parce que vous avez déjà un visa de travail.
Non, mais je comptais faire la demande parce que je sais que la demande elle est assez longue.
Ouais.
Et donc du coup, j'avais déjà regardé un petit peu. Et je sais que du coup, enfin, je sais déjà quel visa je dois demander pour partir là-bas. Et
bah, si votre visa de travail est accepté, enfin voilà, vous avez bien la preuve qu'il est, enfin, vous nous donnez la preuve qu'il est bien validé, bien accepté, etc. Que vous nous précisez bien votre projet. Enfin, il faut être le plus descriptif possible. Pourquoi vous, enfin, décrire aussi vos motivations. Plus vous donnez d'éléments aux membres de la commission, plus ils seront à même d'apporter un avis sur votre projet.
Est-ce que c'est... Vous parliez des accompagnants tout à l'heure. Est-ce qu'il y a la possibilité de rencontrer justement un accompagnant avant pour affiner le projet
Oui.
Avec quelqu'un ?
Oui, tout à fait. Alors, si c'est pour un stage, ce sera avec ma collègue Serena. Et si c'est vraiment d'autres projets, c'est avec en fait Bérénice, Mathieu aussi qui peut nous aider. Et puis moi-même, on est là. Donc vous pouvez dès à présent, enfin vous avez l'adresse mail, vous pouvez déjà ou aller sur eCampus pour prendre rendez-vous avec nous et on peut vous accompagner.
Ok, très bien, merci.
On peut vous accompagner à l'OI sur la stratégie en fait à mettre en place, par exemple, si vous hésitez entre faire un PVT ou faire du bénévolat ou des choses comme ça. Par rapport à votre projet, on va peut-être vous aider à voilà, peut-être choisir l'un ou l'autre pour booster un peu vos candidatures par la suite, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois qu'à distance non plus. En tout cas, notez bien cette adresse-là. Vous pouvez nous retrouver aussi. Nous, nos bureaux, on se situe au rez-de-chaussée, là, du bâtiment B. Voilà, en B1, 064 et 49, merci. Mais surtout, c'est plus facile par mail. Et puis, sur l'espace e-campus également, sur le nom Césure. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie à tous pour votre présence, vos questions, et puis à très bientôt, j'espère.